Voilà que l'évangile de ce jour nous permet de réfléchir à la résurrection de la chair. Et nous voyons à travers cet évangile que c'était une question qui était disputée au sein même du judaïsme. Nous voyons les sadducéens qui tiennent qu'il n'y a pas de résurrection, tandis que, à un autre bord, les pharisiens assuraient d'une résurrection et d'une résurrection des corps. Dans le cadre de l'Antiquité, il y avait aussi une forte influence de la vision grecque. La vision grecque, c'est celle de la transmigration des âmes. Qu'est-ce que c'est que ce mot « transmigration des âmes » ? C'est l'idée que l'être humain se réduit essentiellement à son âme et que le corps est en fait une prison dont il faut se libérer. Cette vision était présente dans l'Antiquité et même dans les premiers temps du christianisme, elle a eu une influence forte au point que, au IIe siècle, un saint Justin dénonçait cette dérive où, sous l'influence grecque, des chrétiens venaient à nier ou à douter de la résurrection de la chair. Et saint Justin disait, mais si le Sauveur n'avait annoncé comme bonne nouvelle que la vie de l'âme, qu'est-ce qu'il aurait apporté de nouveau en comparaison d'un Pythagore, d'un Platon ou d'autres hommes? Et nous voyons encore combien cette vision peut être présente pour nous quand on interroge même des chrétiens sur la résurrection. Beaucoup vont parler d'être d'accord d'une subsistance de l'âme, mais la résurrection de la chair, vraiment, ça fait hésiter des gens. Or, nous avons cette affirmation de la résurrection de la chair. Vous voyez, si on revient à la vision biblique de l'homme, l'être humain, c'est un corps animé, c'est une âme incarnée. Ce n'est pas simplement une âme, ce n'est pas simplement un corps, c'est cette union toute particulière du corps et de l'âme. Au point que Thomas d'Aquin, au Moyen-Âge, insistait là-dessus en disant « La nature de l'homme, c'est d'être, je cite, « un esprit par sa relation corporelle avec le monde et avec autrui. » Un esprit par sa relation corporelle avec le monde et avec autrui. Il n'y aurait de perfection pour l'homme sans cette relation corporelle. Saint Thomas d'Aquin continue même en disant « Du coup, la mort, c'est bien un anéantissement de l'homme, non pas au sens que l'âme ne subsiste pas, mais au sens que l'âme séparée, privée de corps, eh bien c'est certes une âme humaine, mais c'est pas l'homme tout entier. L'homme tout entier, il est corps et âme. Âme incarnée, corps animé. » Parfois bon de le réentendre et de le reentendre de façon, j'allais dire, forte. Du coup, on peut poser, j'allais dire, quelques jalons sur notre foi en l'affirmation de la résurrection des morts et du corps ressuscité. Allez, si on se pose la question, comment est-ce qu'on peut être sûr que les morts ressuscitent? On peut être sûr parce que le Christ l'affirme avec force, il l'avait promis, qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, et lui-même est ressuscité comme il l'avait annoncé. Il a le pouvoir de ressusciter les morts, car il est lui-même la résurrection, ce qu'il dit au chapitre 11 de saint Jean. Alors parfois on se dit, le Christ, oui, mais nous-mêmes. Ben oui, parce que notre résurrection sera semblable à celle du Christ. Et saint Paul, dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3, qui dit « Le Seigneur Jésus-Christ transfigurera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire. » Alors c'est un corps réel ou ce serait pas simplement une espèce de forme, un peu à la manière d'un fantôme, sans consistance? Mais si c'est un corps ressuscité comme celui de Jésus, c'est un corps qui a une consistance. Souvenez-vous de ce qu'on lit en Luc, au chapitre 24, « Touchez-moi, palpez-moi, dit le Christ ressuscité, « voyez que j'ai de la chair et des os, comme un fantôme n'en a pas. » Et les apôtres témoignent, « Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection, ce qui ne serait pas possible s'il n'avait pas de corps. » Alors on s'interroge encore sur ce corps ressuscité. Est-ce que c'est mon corps que je vais retrouver? Parce que voilà, je suis né, j'ai grandi, je grandis, j'ai un corps qui m'est propre. C'est ce corps-là qui va ressusciter. Oui, dans la mesure où le corps ressuscité porte son histoire. Vous savez que notre corps, il est, j'allais dire, rempli de notre histoire. Je m'amuse toujours à regarder une cicatrice que j'ai sous l'auriculaire droit du jour où ma grand-mère a refermé un peu trop vite le lit pliant sur lequel j'étais. Voilà, donc petite cicatrice qui reste témoin de l'histoire. Voilà, mon histoire, elle est aussi portée par mon corps. Eh bien, notre corps porte notre histoire. Le Christ ressuscité, vous vous souvenez, il montre ses plaies. L'histoire a eu lieu, l'histoire n'a pas disparu. En revanche, vous remarquerez que les plaies qui avaient fait mourir le Christ ne le font plus mourir. Ça aussi, c'est une chose importante, parce que vous dites, celui qui est pris, il a de l'arthrose partout, il va dire, je vais ressusciter avec de l'arthrose partout pour la vie éternelle, c'est pas très drôle, ça. Non, rassurez-vous, vous ne souffrirez plus des affres que notre corps connaît. Quand bien même il porte notre histoire, il n'en porte plus la douleur. Mais il y a bien une chose qui va changer, c'est que la matière du corps ressuscité, c'est pas la matière que nous connaissons maintenant. Vous savez, notre matière, elle est pétrie, si on demande aux scientifiques, c'est quoi notre matière? C'est de l'énergie et du temps, ou c'est de l'espace et de la masse? Alors oui, c'est vrai, ce ne sera plus les mêmes molécules. Saint Paul parle du corps ressuscité comme d'un corps spirituel, ça veut dire tout saisi, tout rempli de l'Esprit Saint. Parce qu'il faut que ce sera une matière nouvelle, une matière qui deviendra capable, justement, de partager la vie éternelle de Dieu. Vraiment notre corps, mais dans une matière nouvelle. Et je l'ai dit, on en a un signe, hein, déjà dès à présent. Vous savez que les cellules de notre corps se changent à peu près en 15 ans. Il n'y a plus aucune cellule de notre corps plus ancienne. Voilà. Si vous avez plus de 15 ans, vous n'avez plus aucune cellule dans votre corps de votre naissance. Elles ont toutes été remplacées. Et pourtant, c'est toujours vous. Donc, l'identité de la molécule n'est pas très importante. Déjà, on voit qu'elle se remplace. En la vie éternelle, notre matière est saisie par l'Esprit Saint. Nous serons dans une autre temporalité. Mais on peut avoir une petite inquiétude. Qu'est-ce qui va assurer que c'est vraiment mon corps, que c'est vraiment moi? Ben là, c'est votre âme. Votre âme porte la trace de votre corps. Elle porte la mémoire de votre corps. Vous savez, un peu comme deux pièces de puzzle ne peuvent s'assembler que l'une avec l'autre. Sinon, on peut essayer, il y a des pièces qui ressemblent, mais ça ne s'emboîte pas bien. Voilà, notre âme ne peut aller qu'avec notre corps. On va jamais se retrouver avec le corps d'un autre. C'est vraiment notre âme appelle notre corps. Elle emporte la mémoire, et c'est par elle que notre corps ressuscité est vraiment notre corps, nous-mêmes. Mais on peut quand même se poser une question. Quelle peut bien être l'utilité d'un corps ressuscité? À quoi ça sert un corps ressuscité? Est-ce qu'on va reprendre une existence identique à celle que nous connaissions? Parce que c'est ça que pensaient les pharisiens. Les pharisiens pensaient qu'à la résurrection, on allait reprendre un peu notre vie ordinaire. Vous étiez paysan, vous alliez reprendre votre charrue, vous alliez recommencer à semer du grain. Seulement, il n'y aurait plus de sécheresse, il n'y aurait plus d'inondation, il n'y aurait plus de maladie. Donc c'est une vie telle que nous la connaissons, mais améliorée. Et c'est ça que les Sadducéens tournaient en ridicule, en disant, vous voyez bien que ça pose des problèmes, on reprend la même vie. Là, cette femme, elle était l'épouse de cet homme, si on prend la même vie, elle est l'épouse de qui? Vous savez que Jésus a fait une nuance, il a dit non, la vie que l'on prend ensuite, elle va être sensiblement différente, elle va être comme la vie des anges, pas au sens que nous n'ayons plus de corps, mais c'est un autre mode d'existence. Notre corps, vous savez, ici-bas, il nous sert beaucoup à connaître les choses. Dans la vie éternelle, c'est à travers Dieu, la lumière de Dieu à travers la lumière de Dieu lui-même que nous connaîtrons les choses. Donc parfois on fait des erreurs avec nos sens. Alors il n'y aura plus d'erreurs parce que c'est Dieu lui-même qui nous illumine. Mais vous savez que notre corps ne sert pas simplement à connaître, il nous sert aussi à exprimer. Notre corps sert à exprimer ce que nous sommes, à communiquer aux autres ce que nous portons, ce que nous vivons. Personne ne peut regarder mon âme, mais je peux manifester par mon corps ce qui se passe dans mon âme. Là, il y a une chose amusante à voir, il y a 6 expressions dans l'humanité qui sont reconnues par toutes les cultures. C'est-à-dire que des expressions de notre visage, il y a 6 expressions que, quelle que soit la culture dont vous venez, que vous veniez du Brésil, que vous veniez du fin fond de l'Afrique, que vous veniez de l'Amérique du Nord, que vous veniez de l'Europe ou de l'Asie, on reconnaît, tout être humain reconnaît cette expression. Ces expressions, c'est la colère, la peur, la surprise, la tristesse, la joie et le dégoût. Donc il y a bien une expression qui est là et qui est faite justement pour être connue, pour être connue. Eh bien au ciel, notre corps, j'allais dire, pourra donner cette expression beaucoup plus loin encore. Parce que là, c'est des expressions un peu basiques qu'on transmet, mais il y a des expressions qui sont plus profondes. Quand je dis « je t'aime toi », c'est à la fois « je t'aime » et « je t'aime toi ». Il y a une complexité de la chose. Eh bien, nous serons capables vraiment de le transmettre. Nous serons aussi capables, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, de donner Dieu à voir à travers nous, à travers votre visage, à travers notre visage. Et l'expression que vous donnez de Dieu, elle est toujours différente de celle des autres. Elle dit quelque chose en plus. Elle dit quelque chose en plus. Vous voyez que notre corps sera le lieu aussi de l'expression de la beauté, de la grandeur de Dieu, du cœur même de Dieu. Et vous voyez, de la même façon que dans un orchestre, on ne se dit pas, puisque nous avons déjà des instruments avant en bois, c'est pas nécessaire d'inventer des instruments avant en cuivre. Ben si, c'est une surabondance. Il y a une surabondance, il y a une diversité, il y a une joie de cette diversité. Et c'est la joie de Dieu, justement, de faire que chacun d'entre nous, on pourrait dire, comme des oiseaux différents, pour continuer notre image, nous chantions avec notre propre bec. Nous allons chanter la gloire de Dieu, l'amour de Dieu, la joie de la communion, avec ce que nous sommes, qui aura ce timbre particulier de ce que nous sommes. Et donc là, notre corps va participer justement à cette joie et à ce redoublement de la joie les uns avec les autres. Alors peut-être que, en cette Eucharistie, nous pouvons demander cette grâce au Seigneur d'affermir en nous, d'une part, la foi en la résurrection, en notre résurrection, en la résurrection de notre chair, mais aussi la foi en ce que notre chair ressuscitée, notre chair pétrie de l'Esprit Saint, sera vraiment révélatrice de la bonté, de la joie et de la gloire de Dieu. Parce que parfois, dans notre condition mortelle, ici-bas, on hésite, on dit, j'aurais voulu dire, j'aurais voulu exprimer, j'y arrive pas, ça sort pas, ça sort mal. Parfois on désespère, on dit, ah mais cette fois, je dois pas être fait pour ça. Si vous l'êtes, vous avez été créé à l'image de Dieu, vous avez reçu le baptême, vous êtes fait pour témoigner de la gloire de Dieu. Votre être, jusque dans votre corps, jusque dans ce qui vous semble peut-être le plus médiocre, le plus blessé, sera resplendissant de la gloire de Dieu. Eh bien, nous avons à faire peut-être aujourd'hui cet acte de foi. Seigneur, je crois que jusqu'au bout de ma chair, tu me donneras d'être resplendissement de ta gloire. Alors, nous pourrons dire ta présence, nous pourrons louer ton œuvre avec le Verbe fait chair. Alors, notre être, jusqu'au bout de notre chair, dira Dieu. Amen.